bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je sais pas trop ce que vous avez fait. Moi, j'ai repris un petit peu les séances. Vous savez que dont je vous avais parlé il y a quelques temps. En fait, j'en ai parlé pas mal dans les mails. Alors de mémoire, je sais plus si c'est dans les mails VIP ou dans les mails. Public, mais il y a quelque chose qui fonctionne relativement bien que j'avais mis en place il y a quelques années déjà pour les fins de période de préparation quand vous voulez vous mettre bien en forme, c'est les séries extra longues d'abdominaux. Alors quand je dis séries extra longues, c'est pas en termes de répétition, même si vous pouvez compter plus ou moins le nombre de répétitions que vous avez fait, mais en fait c'est des séries longues, en fait où on marche au chrono et pas au comptage de reps. Et ben hier j'ai repris un petit peu et c'est vrai qu'il y a quand même un effet immédiat qui est assez visible. Bon, je vais vous dire clairement ce que j'ai fait. Je me suis mis une série à la télé. On était dimanche hier, hein, donc parce que je sais que par rapport au moment où vous écoutez le podcast, faut remettre dans le contexte. Donc aujourd'hui j'enregistre, on est lundi, donc hier on était dimanche. Le dimanche en général je fais pas des grosses séances de muscu. Ça dépend, parfois il y en a, mais souvent c'est ou du cardio ou du poids de corps ou autre. Et là, je me suis dit, bon, ben, je me mets à faire mes abdos. Et donc, du coup, j'ai lancé le chrono pendant 17 minutes et j'ai fait des crunchs non-stop, c'est-à-dire sans temps de pause. Mais quand je dis sans temps de pause, c'est rien du tout. Alors, les crunchs, évidemment, c'est pas des crunchs hyper concentrés où on va chercher la contraction maximale et tout. C'est des petits mouvements et c'est plutôt pour le mettre à la place du cardio. Donc, c'est une forme de cardio sous forme d'abdos, finalement. Et cette technique, moi, j'avais remarqué qu'en 5 jours, donc si je démarre le lundi, que je reproduis cet entraînement-là du lundi au vendredi, la définition... Alors, il faut quand même être relativement propre, hein, il faut pas avoir 5 ou 10 kilos de gras à perdre, mais si vous êtes relativement propre, avec des abdos qui sont déjà là, ben vous allez améliorer... Enfin, vous, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, ça améliore ma définition sur le ventre. Il faut savoir une chose, c'est que moi, c'est un de mes points faibles, hein. C'est quelque chose que j'ai dû combattre quand j'ai dû perdre du poids, etc. C'est pour ça que... Dans l'ouvrage que j'ai écrit et que je vous ai partagé au podcast précédent, moi ça a été mon combat, quoi. J'ai pas de problème à être sec sur les bras, sur les pecs, sur le dos, sur les cuisses, etc. Moi c'était surtout le ventre. Et cette technique-là fonctionne vraiment vraiment bien pour moi. Donc je me suis amusé à faire le calcul en fait sur une minute combien je faisais d'abdos. Donc en gros en 17 minutes ça faisait 1080 répétitions de crunch, donc non-stop. Je peux vous garantir que là, au niveau de la brûlure musculaire, bon c'est là où il faut résister. Parce que les trois premières minutes, la brûlure monte et après en fait ça se stabilise. Mais ça travaille le mental, ça améliore un petit peu ma définition musculaire. Faut que je fasse attention parce que si je dis que ça l'améliore à tout le monde, je vais me faire attaquer. Mais bon, le but c'était de vous partager un petit peu ça. Donc bref, je m'arrête de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Première chose qu'on va voir, on va parler des bactéries intestinales qui nous feraient manger ce qui les arrange. Ensuite, on va parler de la maladie du foie gras qui agite les laboratoires pharmaceutiques. On va parler aussi de l'appellation steak, saucisse, etc. Pour les aliments véganes, vous savez. On va parler de l'effet métabolique d'un dîner tardif. Et on va répondre, si j'ai le temps, à la question d'un auditeur. Voilà, donc vous avez plus ou moins le thème du podcast du jour. Alors, avant de démarrer, sachez que ce week-end, j'ai sorti la diète cyclique, revue, corrigée, tout ça. En fait, surtout pour vous parler un petit peu des carences que vous pourriez trouver si vous vous lancez, vous, aujourd'hui, dans une diète cyclique. Des carences, c'est faut faire attention, vous allez pas en mourir, mais disons qu'aujourd'hui, quand on parle de diète cyclique, c'est relativement facile de trouver du contenu sur le sujet pour savoir comment faire. Moi, le but de la formation, c'était de vous montrer une dimension autre, c'est-à-dire de vous apporter un petit peu comment dire, des notions de. Alors, en fait, c'est toujours pareil. Quand on choisit un plan alimentaire ou un plan d'entraînement, faut voir les avantages qu'on en tire, mais aussi probablement les petites failles dans cette approche. Et donc, du coup, comment on peut faire pour être au mieux avec ce protocole? Et là, en fait, ça a été ça. Dans le programme complet de diète cyclique que je vous propose, bon, en gros, c'est pour perdre du gras en souffrant moins que quand on fait une diète, on va dire plutôt classique. Plutôt classique, c'est-à-dire en réduisant les calories essentiellement provenant des glucides pendant tant de jours et après on fait une petite recharge, etc. Ça, c'est une approche qui fonctionne bien, que j'ai utilisée, enfin voilà, que moi, c'est celle que je préfère utiliser. Après, il y a pas mal de personnes qui ont des problématiques par rapport à ça. En fait, elles se sentent pas de sauter le pas d'un coup, mais en même temps, elles ont du gras à perdre. Donc, pour éviter qu'elles se laissent séduire par des choses qui vont les faire stagner, j'ai essayé de leur proposer plutôt quelque chose de plus cohérent et qui est plus confortable à suivre pour perdre du gras. Et d'ailleurs, qui aide un petit peu aussi à conserver certains volumes musculaires à l'entraînement, une bonne congestion et de pas avoir trop de symptômes négatifs du régime. Parce que, encore une fois, je préfère vous le préciser, un régime, il y a des effets négatifs. Et c'est pour ça que normalement, ça devrait pas être sur des longues durées. Quand les gens vous disent qu'il faut le faire sur le long terme, moi, je suis pas pour le très long terme comme ça pour un régime, parce que cataboliser longtemps, je trouve pas ça intéressant. Je préfère plutôt y aller correctement sur une plus courte période et après adopter des bons réflexes, etc. Enfin bon, bref, je vais pas trop détailler le sujet. Les points clés de ce que je propose sur le site, c'est, bon voilà, déjà vous avez l'historique de la diète cyclique, les suppléments les plus utiles quand on réduit les glucides, supprimer les carences de ce régime, conserver un métabolisme élevé pendant votre perte de graisse, il y a le programme diététique au format PDF et la vidéo. Enfin bon, bref, voilà, vous avez tout ça, c'est pour les VIP, comme d'habitude, je m'attarde pas plus que ça, vous avez le lien en description. Bon, on passe au podcast, le podcast du jour, on a parlé rapidement de mon petit retour, feedback, etc. par rapport aux abdos du week-end, que j'aime bien faire comme ça. Donc, est-ce que je vais me lancer à les faire tous les jours de cette façon? Je sais pas, mais en tout cas, là, pour l'instant, je vais rester un peu dans cette lignée, parce que j'aime bien tester des choses avant. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ces abdos-là, avant, je m'étais verrouillé sur 10 minutes non-stop. Là, je vois que je suis monté à 17, donc je vais rester sur 17 pendant quelques temps. Et puis voir si je peux augmenter progressivement et faire en fait mon cardio, essayer de faire mes 30 minutes de cardio à terme sous forme d'abdos. Donc un petit défi que j'aime bien me lancer. Alors commencez pas d'entrée de jeu à 17, commencez à 5 minutes, puis 10, enfin 5, puis 7, puis 10, puis après vous montez progressivement. Bon, premier article que j'ai récupéré. Le premier article que j'ai récupéré, c'était « Les bactéries intestinales nous feraient manger ce qui les arrange ». Donc, citation de l'article, « Les micro-organismes ont la capacité de manipuler le comportement et l'humeur en altérant les signaux neuronaux dans le nerf vague, en changeant les récepteurs du goût, en produisant des toxines qui nous font nous sentir mal et en libérant des récompenses chimiques pour nous faire sentir bien ». Si les bactéries intestinales nous poussent à manger mal ou trop lorsque leur écosystème n'est pas équilibré, il est possible de résister à leur action, tout simplement en changeant délibérément notre alimentation, car un changement alimentaire peut affecter rapidement la composition du microbiote. Et rééquilibrer le microbiote avec un programme nutritionnel spécifique permet au passage de perdre les kilos superflus sans stress, sans frustration et durablement, ce que propose le docteur Cotina. Alors, je serais pas aussi réconfortant sur l'aspect sans stress, sans frustration et durablement. Déjà, il y a quelque chose. Bon, depuis quelques années maintenant, c'est les bactéries intestinales et tout. Finalement, je vais pas dire qu'on patauge, mais on a tellement de données qui arrivent par rapport à ça. En fait, on sait qu'il y a un impact. On sait que toutes ces bactéries, tout ce microbiote, toute cette flore intestinale, comme on pouvait dire avant, a un impact direct sur le cerveau, sur notre façon de nous sentir, etc. Et donc là, il y a abondance de données contre, comment dire, il n'y a pas encore de protocole clair et net. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, bon, tu veux refaire ton microbiote, tu manges ça, ça et ça, etc. En fait, on a plus des données générales. C'est-à-dire que ça a été démontré, par contre, que manger mal, donc des produits industriels, des graisses saturées, des graisses trans, à outrance, donc de la viande de mauvaise qualité, enfin bon voilà, des produits de type industrie agroalimentaire, vous savez, hyper retouchés par l'homme, le sucre, etc. Ça vient perturber cette flore intestinale, l'aspartame aussi, les produits zéro et tout. Et donc du coup, si cette flore intestinale, ce microbiote est désorganisé et mal entretenu, on va avoir des effets secondaires au niveau émotionnel, comportementaux, et même, pour aller plus loin, également au niveau des, comment dire, du tour de taille, de l'énergie, de la vitalité et tout ça. Donc dans les grandes lignes, il faudrait tendre vers un régime plus sain. Plus sain veut dire des aliments bruts, mais il faut faire attention parce que le sportif, en fait, manger très sainement n'est pas manger pour un athlète, surtout quand un athlète veut être sec. C'est ça qu'il faut, il faut bien faire la différence. Si vous voulez manger 100% santé, bah, plus ou moins le régime méditerranéen adapté, on va dire, en fonction de l'endroit dans lequel vous vivez, etc. Mais d'avoir une approche plutôt cohérente, où vous n'avez pas abondance de protéines, vous n'avez pas abondance de glucides, ni abondance de graisse, mais par contre avec pas mal de végétaux. Ça c'est bien, c'est ok pour le régime, on va dire, longévité et santé. Mais par contre le sportif, surtout le sportif quand il fait de la muscu, son apport en protéines, on peut dire ce qu'on veut, il est plus élevé. Enfin, il devrait être plus élevé, parce que on fabrique pas du muscle avec du sucre, ni avec du gras, on fabrique du muscle avec des protéines. Donc déjà, du coup, on n'est plus dans l'approche santé recommandée par ce genre de régime-là que je viens de citer. Donc déjà, au-delà de suivre une mode, au-delà de suivre un protocole X ou Y que vous pouvez voir sur les sites de santé un petit peu sérieux, il faut toujours prendre le facteur « je fais du sport, je fais de la muscu et je veux être sec », admettons. Et donc du coup, à partir de là, vous allez légèrement vous décaler par rapport au but de santé pur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans l'approche 100% santé, tout en ayant des abdos déchirés, vraiment en étant au pic de votre forme esthétique. Donc c'est un choix à faire. Certaines personnes préféreront rester sur un protocole 100% santé, et d'autres qui vont se dire « ok, mais là je dois faire au mieux au niveau de ma santé avec l'objectif que j'ai qui est d'être plus musclé, etc. etc. » Mais en règle générale, il est possible d'être super sec avec des aliments bruts, c'est-à-dire avec des végétaux, avec des protéines, on va dire, non transformées. Quand je dis non transformées, c'est de la viande, poisson, œufs, voilà. Mais également des sources de céréales non retouchées, enfin en tout cas pas blanchies, si je peux dire les choses comme ça, non raffinées. Ça peut être... En fait, ça va être plus intéressant. Et donc, du coup, vous allez certainement moins... subir les désagréments, on va dire, des bactéries intestinales. Et donc c'est un petit peu pour ça que quand je dis que la science patauge, je sais pas qu'elle patauge dans le sens où elle en sait rien, elle sait beaucoup de choses par rapport à ça, mais dans notre cas de figure à nous, c'est plus compliqué que pour une personne du quotidien qui ne ferait pas plus de sport que juste une sortie vélo de temps en temps, enfin voilà. Nous on est vraiment un petit peu hors zone. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence de se dire « ok, ce que j'ai appris avant, faut pas que je l'oublie, il faut juste que je compose avec ce que j'apprends maintenant ». C'est vraiment comme ça qu'il faut approcher le truc, quoi. Après, il parlait aussi, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, la maladie du foie gras agite les laboratoires pharmaceutiques. Donc, peu de monde est au courant, mais le 12 juin est désormais la journée mondiale de la NASH, N-A-S-H, un acronyme anglais désignant la stéatopathie non alcoolique. En gros, c'est avoir les mêmes problèmes que les alcooliques au niveau du foie sans boire, c'est-à-dire une pré-cirrhose du foie due à une alimentation trop riche et non due à l'alcool. Elle concerne essentiellement les personnes obèses, soit 10% de la population européenne et 12% de la population américaine, avec à la clé un marché potentiel encore vierge de tout médicament estimé à 22 à 35 milliards de dollars. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer rapidement, et je voulais vous partager cette info, même si ça n'a rien à voir avec le fitness, mais bon, enfin, quoique, En fait, indirectement, si, parce que beaucoup de personnes parlent du foie et tout ça en muscu, mais bon, vous voyez que là, une alimentation pourrie, surpoids et tout, ça vient bien abîmer votre foie. Et donc là, ils montraient que il y avait, alors jusqu'à aujourd'hui, on parlait, on disait beaucoup que oh non, c'est pas l'alimentation au niveau du foie et tout ça, mais là bientôt, vous allez voir que si, et que justement, on va beaucoup en parler à partir du moment où le traitement va sortir. Et ça me pose toujours un problème. Dans le sens, enfin, ça me pose un problème. Ça me fatigue pas. Hein. C'est juste que chacun est libre de penser comme il veut. Mais dites-vous bien une chose, c'est que 10 à 12% de la population, donc 10% en Europe, 12% aux États-Unis, c'est un marché énorme. On parle pas là de milliers de personnes. C'est vraiment des très très gros chiffres. Donc, comme ils disent, 22 à 35 milliards de dollars, ils vont pas s'asseoir dessus. Donc, prochainement, il y aura un médicament qui sera beaucoup plus mis en avant qu'une approche alimentaire plus cohérente et qu'un mode de vie plus sain. Mais dites-vous bien une chose, c'est que à partir du moment où cet argent va rentrer, on va vouloir la conserver. Donc du coup, c'est là où je trouve le côté ambigu, c'est quand on parle de problèmes de santé en termes de milliards de dollars, mais pas de milliards de dollars de dettes, mais de milliards de dollars de gains. Et là, ça me pose problème. Enfin, ça me pose problème. Ça devrait poser problème à beaucoup de personnes de voir comment on peut créer un business autour d'un problème de santé qui pourrait être solé. On le sait, qui peut être solutionné avec une approche alimentaire et de l'activité physique. Donc, c'est vraiment compliqué de voir dans quel monde on vit. Il faut traiter ces personnes quand c'est dans l'urgence, mais enfin moi ça me fait de la peine quand même. Voilà. Bref, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Ça me fait un peu de la peine de savoir dans quel monde on vit. En tout cas au niveau de la santé, d'un côté on va dire de la santé chimique, médicamenteuse, etc. Et d'un autre côté des bons réflexes et je suis pas contre les médicaments, loin de là, parce qu'il y a des personnes chez qui, voilà, quand il y a des problèmes aigus, il faut traiter. Mais il faut que quelque part, voilà, ça va générer 22 à 35 milliards de dollars. Putain, mettez des plans en place pour des campagnes de prévention ou mettez en avant des personnes comme moi, j'en sais rien, pour que le message puisse passer, de leur dire que c'est possible de faire des efforts, je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a des solutions. Il y a pas que moi. Il y a plein de personnes qui parlent de ça, mais il y a des solutions pour aider les gens à se remettre un petit peu en selle, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne le corps et de la remise en forme, on va dire. Il faut les pousser en avant, ces personnes-là, pas pour leur faire gagner de la thune, on s'en fout, mais au moins pour que le message passe. Je veux dire, un podcast comme ça, c'est gratuit. Enfin voilà, il faut que les gens au moins soient conscients qu'ils n'ont pas que cette solution-là. Ils ont une solution qui est à portée de main, on va dire. Ça va être de mieux manger et de bouger un petit peu plus pour limiter ce genre de problème-là. Bon bref, je m'attarde pas trop parce que c'est pas un sujet qui vous intéresse tant que ça, je pense. On va passer au vegan. Alors vegan, ils disent fini l'appellation steak. Suite à l'adoption de la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits alimentaires. Alors pour rappel, j'en avais parlé il y a peut-être à peu près un an dans un autre podcast où justement il y avait un procès qui avait été lancé où ceux qui vendaient de la viande et tout, ils en avaient marre que ceux qui créaient des produits véganes, ils appelaient ça des steaks alors que c'était pas des steaks, ils appelaient ça des saucisses alors que c'était pas des saucisses. Et donc du coup, là, ils ont gagné visiblement. L'utilisation des dénominations animales, steak, filet, saucisse, aux produits végétaux est désormais interdite. Les députés ont en effet adopté fin mai une proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits alimentaires mettant fin à cette terminologie. Alors je précise, parce que les podcasts sont un peu longue durée sur l'écoute, que c'est mai 2020, voilà. Donc, par rapport à ça, en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'industrie du lait et les boissons végétales type ce qu'on appelait lait d'amande, lait de soja, lait d'avoine et tout. L'industrie laitière a essayé quand même de récupérer tout ce qui venait pas de la glande mammaire ne pouvait pas être appelé du lait. Et ils avaient, de mémoire, ils avaient gagné puisque Je crois pas qu'aujourd'hui on peut voir écrit lait d'amande sur, je crois que c'est boisson végétale ou jus végétal ou autre. Voilà. Donc maintenant la viande, les produits animaux se sont réunis et ont lutté pour conserver leur appellation. Bah après. Ça va. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va certainement créer des nouveaux noms. Donc, ça va être des noms autres pour, par exemple, la saucisse. Ça sera, je sais pas, des roulés ou des tubes ou des, je sais pas moi. Ils vont trouver des autres noms. Il va y avoir le vocabulaire en fait va grandir un petit peu. Donc voilà. Mais ce qui va avoir un impact en fait sur le marketing, parce que une personne qui décide de ne plus manger de viande, elle va se dire par quoi je peux remplacer la viande. Et si elle retrouve dans les rayons quelque chose où il y a marqué steak sans viande ou steak végétal, eh ben elle aura la réponse à son interrogation. Par quoi je peux remplacer mon steak? Bah par un steak végétal. Par quoi je peux remplacer ma saucisse? Bah par de la saucisse végétale. Par quoi je peux remplacer mon fromage? Bah par du fromage végétal. Et à partir de là. Au niveau marketing, c'est que ça a quand même un gros poids. Donc, je sais que pas mal de personnes vont se dire, mais qu'est-ce que ça apporte? Ben, en fait, ça apporte beaucoup parce que d'un point de vue publicité, séduction des gens, parce qu'une personne qui n'a jamais fait attention, enfin qui ne fait pas réellement attention à sa diète et tout, qui mange un petit peu selon ce qu'elle voit dans les rayons, si elle passe à côté de quelque chose où il y a marqué steak végétal, donc je parle pas d'une végane, d'une personne végane ou une personne omnivore ou quoi, non, je parle d'une personne lambda, quelle qu'elle soit, qui ne s'intéresserait pas ni à être carnivore, omnivore, enfin voilà, ni végane, ni rien du tout, mais elle voit steak végétal, elle aura plus de chances de se dire, tiens, pour remplacer la viande, aujourd'hui, je vais en acheter. Alors que si elle voit une nouvelle appellation d'un nom qu'elle connaît pas, ben, par précaution, elle va peut-être pas tenter, quoi. Et donc, ça a quand même un lourd impact au niveau de l'économie des produits véganes. Et bon, bah à suivre un petit peu comment ça va se passer, parce que je sais qu'il y avait pas mal de travail dans les labos pour essayer de reproduire tout, les goûts, l'aspect, la couleur, l'odeur de tout de la viande, mais sans être de la viande. On en avait déjà parlé, c'était 10 fois plus chimique. Enfin bon, mieux vaut manger un steak à terme. Je pense que ça sera mieux que de manger ces saloperies chimiques ou je sais plus quel ingrédient ils mettaient pour retrouver le goût, mais c'était un truc qui était vraiment 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 nocif quoi. Bref. Là, un truc de recherche que j'avais vu dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Donc, en gros, c'est les mauvaises habitudes du dîner qui pourraient favoriser l'apparition du diabète et de l'obésité. Donc, des chercheurs ont suivi 10 femmes et 10 hommes en bonne santé. Les participants avaient pour habitude de se coucher entre 22h et 1h du matin. Donc, plus ou moins comme vous et moi, j'imagine. Lors de cette expérience, les volontaires ont dormi à des heures fixes. Ils allaient au lit à 23h et se réveillaient à 7h le lendemain. Les scientifiques leur ont demandé de manger un repas à 18h, un jour, donc une fois à 18h, et le même plat exactement, à 22h un autre jour. Dans ces deux situations, les participants devaient toujours se coucher à 23h. Donc en fait, le sommeil ne changeait pas, il n'y avait que l'heure du repas qui changeait, soit c'était à 18h, soit c'était à 22h. Et en fait, dans les deux situations, les participants devaient toujours se coucher à 23h, etc. Les résultats de cette étude ont révélé que le taux de sucre dans le sang des volontaires était plus élevé au moment du coucher lorsque le repas a été pris tard, soit à 22h. Autre constat des chercheurs, la quantité de la graisse brûlée était plus faible lorsque l'écart entre le dîner et le coucher était de 5h. Donc voilà, la quantité de graisse brûlée était plus faible lorsque l'écart entre le dîner et le coucher était de 5h. Donc il faut bien voir une chose, là on parle pas de macronutriments, de tout ça, il y a aussi une rythmicité des repas, c'est-à-dire le timing des prises alimentaires ce que j'essayais d'expliquer là dans une vidéo récente, c'était surtout que de manger le soir plus tard, c'était illogique en fait de manger copieux le soir. Et là en fait cette étude, bon même si ça reste une étude, hein, attention les études, le terrain, enfin ce qu'on peut vérifier chez certaines personnes et tout, voilà ça diffère, mais bon en règle générale quand même, bon c'est pas un super échantillon, 10 hommes et 10 femmes, mais ça donne quand même une certaine petite tendance. Et c'est plutôt illogique de manger lourd le soir, dans le sens où, pour une personne, encore une fois, qui veut améliorer son tour de taille, hein, je parle pas des autres, hein, je parle vraiment, moi, mon but, c'est pas d'expliquer comment manger à monsieur et madame tout le monde, hein. Moi, il y en a qui le font sur YouTube, qui leur donnent des conseils et tout. Moi, c'est pas mon but, hein. Mon but, c'est pour les personnes qui veulent avoir des abdos apparents, qui veulent avoir quand même une bonne énergie, bien qu'ils soient au régime pour perdre du gras, ou alors qu'ils essayent de fabriquer de la masse musculaire. Moi, c'est plutôt dans cette optique-là. Hein. J'essaye d'améliorer le reflet dans le miroir qu'ont les gens d'eux-mêmes. Hein. Je vais pas chercher à vous convaincre avec de la science des trucs qui vous aideront pas. Et là, c'est vraiment pour que ça puisse vous apporter une petite aide et au moins une petite prise de conscience par rapport à ces repas hyper riches le soir. Enfin, en tout cas, à une heure tardive. Et là, comme il disait, en moyenne, le pic de glucose après le dîner tardif était supérieur de 18%. Et la quantité de graisse brûlée inférieure de 10% par rapport au dîner de 18h. C'est quand même beaucoup, 18% et 10%. Alors, 18h, c'est peut-être un peu extrême. Personne mange à 18h, sauf aux États-Unis et peut-être en Angleterre. Mais sinon, je sais pas, vers 19h30, 20h, c'est déjà mieux que de manger à 22h, quoi. Donc... Enfin, moi, j'en parlais il y a déjà longtemps de cette idée de glucose le soir, de faire monter, de faire piquer la glycémie en fin de journée, comme ça. Au niveau du sommeil, c'était pas quelque chose que je recommandais, surtout si vous étiez au régime, et que c'était pas intéressant non plus au niveau de l'énergie et au niveau de la récupération, parce que si plus on passe du temps à digérer, moins le sommeil peut s'accomplir, en fait. Donc mieux vaut avoir sa digestion qui est plus entamée, donc déjà plus lointaine, on va dire, dans son processus quand on va se coucher que toute jeune, entre guillemets, quoi. C'est quand même mieux. Après, c'est un point de vue de terrain. Moi, j'ai ressenti que quand je mangeais lourd, en tout cas quand je mangeais un bon repas et que j'allais me coucher assez proche, l'endormissement était certes rapide. C'est sûr qu'on s'endort bien, hein, quand on a le ventre plein. Mais par contre, je me réveillais le lendemain, je sentais que j'avais pas une bonne récupération. Alors mon sommeil, il avait beau être de 8h, j'étais resté certainement dans certaines phases de sommeil. J'avais passé trop peu de temps dans les phases de sommeil nécessaires à la bonne récupération, et certainement beaucoup de temps dans du sommeil léger, par exemple. Bon, bref. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et j'avais dit que je traiterais une question. Bon, on a encore 5-6 minutes. Là, je vais traiter la question. Donc, c'était une question d'un auditeur. Donc, comment on pose les questions quand on est auditeur? Eh bien, vous avez un lien dans la description de ce podcast où il y a marqué « Posez vos questions ici ». C'est un petit formulaire anonyme. Vous pouvez poser vos questions. Il n'y aura pas votre nom, pas votre prénom. Il n'y aura rien du tout. Comme ça, au moins, vous pouvez même poser des questions que vous jugez un peu dérangeantes. Et plus elles seront dérangeantes, sachez une chose, c'est que ça va certainement aider des personnes, parce que les questions dérangeantes, personne ne veut les poser. Là, c'est anonyme, je l'ai fait exprès. Beaucoup de personnes cherchent à rendre public les auteurs des questions. Moi, c'est le contraire, je cherche à les rendre anonymes, parce que plus ça sera anonyme, plus les langues vont se délier. Et certes, il y aura plus de haters, mais il y aura aussi des questions certainement plus intéressantes. Et donc là, c'était une question anonyme qui ne nécessitait pas d'avoir l'anonymat. Mais bon, le gluten peut-il faire gonfler le bas-ventre ? Alors le bas-ventre, c'est une grosse question pour beaucoup de personnes. Pourquoi on a le bas-ventre gonflé, etc. Le gluten, alors ta question, oui, c'est possible. Quand je te dis oui, c'est possible, c'est si tu as une intolérance, si tu as une sensibilité, donc tu vas créer une certaine inflammation, etc. C'est probable, c'est possible. Donc la seule solution pour toi, c'est d'essayer de le couper. Donc de le réduire fortement, à mon sens, c'est pas suffisant. Si tu veux vraiment savoir si t'as un bienfait, coupe-le complètement. Donc tu peux consommer pendant une semaine des sources de glucides autres que celles contenant du gluten. Donc tu peux plutôt te tourner vers de la patate douce, vers des fruits, je sais pas moi, vers du sarrasin. Enfin bon, je vais pas trop faire la liste, j'en ai parlé sur le site déjà. Mais tu peux te tourner vers ce genre d'aliments et voir comment ça se passe. À mon sens, c'est pas la seule raison. Il y a aussi une partie entraînement. Quand je dis une partie entraînement, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, quand vous faites les abdos, ont tendance à pousser sur le ventre. C'est-à-dire que quand ils contractent leurs abdos, ils ont tendance à pousser légèrement vers le bas en contractant. Il y a un petit réflexe à avoir, c'est quand vous contractez les abdos, essayez d'être sur l'expire. Donc, c'est-à-dire vous soufflez. quand vous serrez vos abdos, vous soufflez l'air de vos poumons en même temps et entraînez-vous même à vide, c'est-à-dire à vide sans faire de crunch ou quoi. Vous mettez la main sur votre ventre et vous forcez à souffler, contracter, souffler, contracter, souffler, contracter pour essayer de prendre le réflexe moteur de cette action-là. Comme ça, au moins, vous pourrez le conserver quand vous allez contracter vos abdos. Ça, c'est un point, mais aussi pas mal de personnes ne font pas de travail au niveau des transverses et du gainage, etc. C'est quand même une façon d'améliorer un petit peu la planitude du ventre, même si c'est minime, mais ça aide quand même un petit peu. Donc, peu de personnes le font, ou alors font du gainage, mais sans essayer de rentrer cette partie-là du ventre. Et cette zone reste plus ou moins détendue, et ça donne pas un aspect esthétique. Mais également, beaucoup de personnes pensent que ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux sont la réalité. C'est-à-dire qu'elles pensent que quand elles voient un athlète avec le ventre hyper plat, un ou une athlète, c'est naturel chez elles d'être comme ça. Mais non, c'est faux. En fait, regardez des vidéos de ce genre de personnes quand elles sont torse nu ou en top, vous savez, en brassière ou autre. Vous verrez que quand elles respirent, elles ont également le ventre qui gonfle, qui se dégonfle. Et en fait, elles essayent de le garder bien serré pour les photos ou certaines vidéos. Donc, ne vous basez pas trop sur les couvertures des magazines et tout. Vous pouvez avoir un ventre comme ça, mais ça sera pas de manière permanente. Mais pour aller un petit peu plus loin, sachez une chose aussi, c'est qu'un intestin, quand il est vide, il est plus plat. Donc, si vous êtes constipé, ça peut aussi amener à avoir le bas du ventre un petit peu gonflé. Si vous mastiquez pas pendant que vous mangez, la mastication quand même aide à avoir une meilleure digestion, et de pas mastiquer et manger rapidement, ça ballonne, donc vous allez avoir le bas du ventre gonflé. Si vous tirez essentiellement vos sources de en fait, si vous avez remplacé vos féculents par des légumineuses, ben voilà, c'est très fibreux. Ça pourrait aussi être responsable de ballonnement et de bas du ventre gonflé. Donc c'est toujours un équilibre. Moi par exemple, les légumineuses, il faut pas que j'en consomme à tous les repas pendant plusieurs jours. Il faut que j'alterne. J'alterne entre ça, et après des fois où ça va être des légumes purs, donc je vais tirer mes glucides des légumes et pas des légumineuses ou autres, je vais tourner. Parfois ça sera un petit peu du riz complet, parfois ça sera de la patate douce, et je vais avoir une alternance comme ça. Mais si je mange essentiellement des lentilles, des pois chiches, des haricots blancs, des choses comme ça, et ben plus les jours vont passer, plus je vais ballonner, ça va être insupportable, transformé en montgolfière quoi. Donc forcément à ce moment-là on n'a pas le ventre plat. Donc le gluten, c'est pas le seul responsable. Ça peut l'être dans certains cas, mais c'est pas le seul responsable. Il y a une partie style de vie, une partie entraînement, quoi, nutrition, etc. Et il faut pas incriminer que le gluten. Moi, c'est mon point de vue, même si j'en consomme pas ou très peu. Et donc, du coup, il faut plutôt se tourner vers autre chose qu'espérer simplement. Et puis d'ailleurs, ça permettra aussi de pas le supprimer à 100%. Quand je dis pas le supprimer à 100%, de toute façon, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange ne devrait pas manger énormément de gluten, hein, parce que des pâtes blanches ou des pâtes complètes ou du pain et tout, ça fait pas forcément partie d'une diète pour avoir des bons abdos. Nous, on est plutôt, enfin, moi, mon point de vue, c'est plutôt l'inverse, mais bon, s'il y a peut-être des gens qui ont un super physique en mangeant toutes ces choses-là, tant mieux pour elles, et tant mieux pour vous si ça fonctionne, conservez ça, hein, y a pas de problème. Moi, en tout cas, chez moi, c'est mon point de vue, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça aurait été un plaisir de pouvoir consommer ces aliments-là et avoir des abdos apparents, mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. Bon, je m'arrête ici pour l'épisode du jour. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Donc ça y est, l'été est là. On est dans le jour, dans les jours de la semaine où les jours sont les plus longs. J'espère que vous avez réussi à vous mettre en forme. Moi, j'ai pu aider quelques personnes, parce que oui, sachez une chose, c'est que ceux qui m'écoutent en podcast, là, vous le savez pas, mais je fais des consultations par Skype. Alors, c'est pas des coachings ou des plans, des machins et tout ça. Le but, c'est vraiment de travailler sur vos problématiques. Donc, c'est vraiment une analyse de votre style de vie et d'essayer de voir là où il y a des problématiques, d'essayer de vous recentrer un petit peu sur vos objectifs et sur ce qu'il faudrait faire pour aller vers votre objectif. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir que pas mal de personnes, en fait, sorties du confinement, ont décidé de sauter le pas pour faire les choses correctement. Et c'est bien, parce que je commence à voir des photos d'avant-après, dont celle de, alors je dirais pas le prénom, on va dire de J, qui m'a envoyé son avant-après, qui est vraiment significatif parce qu'il a commencé sa transformation durant le confinement. Donc on s'est eu au téléphone durant le confinement de mémoire, et il a fait sa transformation une partie pendant le confinement, une partie après le confinement. Et franchement, il a bien réussi à conserver sa masse musculaire et il a bien viré du gras. Donc il y a à peu près 6 semaines, je crois, d'écart entre la consultation et le moment où il m'a envoyé sa dernière photo. Et c'est vraiment pas mal. Donc ça veut dire que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui ont encore la rage, on va dire, post-confinement, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui ont lâché l'affaire, hein. Je vous le dis honnêtement, vous voyez peut-être pas forcément autour de vous, mais moi qui ai beaucoup de retours, vous savez, de personnes qui me contactent par message, et j'ai vu qu'il y avait toujours autant de personnes, mais des anciennes ont disparu en fait. Et tenez, c'est le Covid. Et donc voilà, ça me fait un petit peu de la peine de voir que des personnes n'ont pas survécu en fait à l'immobilisation du confinement. Bref, si vous voulez plus d'infos sur tout ce que je viens de citer ou d'attaquer cette fameuse diète cyclique pour l'été, allez voir le lien, il est en description. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles, hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.